Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau et dernier Tribune Mayol de la saison. On a décidé de revenir une dernière fois pour parler tous ensemble de cette saison du RCT. Avec moi, Lucas Licata Carousseau. Bonjour Lucas.
Bonsoir Naël. Bonsoir Nance.
C'est pas grave.
Mais j'ai tellement l'habitude d'avoir Naël normalement.
Je le prends comme un compliment.
En face de moi, mais.
Il est là, en face, de l'autre côté.
Naël, bonsoir Lucas, bonsoir direction.
Bon voilà, on est un peu fatigués, nous aussi, c'est la fin de saison. C'est la dernière, on va tirer un peu le bilan complet, on va essayer en tout cas de l'être, complet sur cette saison du RCT qui aura été mouvementée, puis on va parler aussi de ce qui arrive avec notamment le recrutement, le retour de Franck Azéma, le retour du RCT malheureusement en Challenge Cup. On va essayer d'évoquer tout ça dans cette émission. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quand même ce qui s'est passé ce week-end. Alors, Toulon n'était malheureusement pas invité à la fête, mais on a eu deux barrages avec une surprise, la victoire, entre guillemets, du Racing du côté de Pau, et puis le gros carton du Stade Français face à La Rochelle. Toulouse Racing, ce sera vendredi. Montpellier Stade Français, ce sera samedi. Les deux matchs sont au Stade Vélodrome. Messieurs, un petit pronostic déjà pour commencer sur ces deux demi-finales. Qui vous voyez finaliste?
Toulouse Stade Français.
Moi je vais dire Toulouse-Montpellier, en tout cas j'aimerais bien que ce soit Toulouse-Montpellier.
Okay. Voilà. Donc une surprise du Stade Français qui battrait Montpellier.
Mais le Racing va embêter aussi Toulouse, mais je pense à l'usure, Toulouse aura gain de cause.
Et qui soulèvera le bouclier de Brennus selon vous?
Avec suspense.
Ouais.
Toulouse, hein,
le Stade Toulousain, on est trois là-dessus, on est d'accord. Bon bah une chose est sûre, c'est que malheureusement ce sera pas le RCT qui n'était pas invité pour les phases finales. On en a beaucoup parlé, bon malheureusement ça fait déjà quelques semaines qu'on fait un petit peu des pré-bilans et des bilans. Quel mot vous utiliseriez, vous avez le droit à plusieurs mots, pour décrire cette saison là qui s'est arrêtée la semaine dernière côté RCT?
Bah déjà il y a un espèce de sentiment d'inachevé peut-être, assez frustrant dans le déroulé de la saison où est-ce qu'on a vraiment senti démarrer cette saison à un moment? C'est un peu le sentiment que j'ai moi, le sentiment de que ça n'a jamais vraiment commencé, qu'on n'est jamais vraiment rentré dedans, qu'on n'a jamais vraiment été pleinement satisfait de ce qui se passait. Quand je dis on, je pense que c'est l'ambiance générale autour du club, hein, c'est-à-dire
le staff, les joueurs, les supporters.
Quand on regarde la saison dernière, on n'a pas senti le même engouement. En fait, c'est ça. Alors même s'il y a eu un mois d'avril qui nous a laissé entrevoir peut-être des espoirs, notamment avec la Champions Cup, finalement, même à ce moment-là, c'était pas pareil. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu moi dans cette saison.
Ouais, un peu dans la même continuité. Ouais, j'irais long et pénible en fait. Okay. Non, mais pénible, je pense aussi pour tout le monde.
Ouais, ouais, bien sûr.
Enfin, on a l'impression que. Là, ils étaient arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Ça a été difficile pour tout le monde. Pierre Mignoni le premier. Pour les supporters aussi, ça n'a pas été facile. Voilà. Et la saison a paru vraiment beaucoup plus longue aussi que celle de l'année dernière. Mais parce que, comme dit Naël, c'est vrai, on n'a jamais trop senti d'euphorie. Un peu avec la Coupe d'Europe, mais le fait que les matchs étaient à l'extérieur, ça enlevait aussi peut-être un peu.
Difficile d'avoir de l'engouement.
Exactement. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça a rendu cette saison un peu bizarre, toujours sur un faux rythme, en fait, où on se disait à chaque semaine, ah, là, on y croit s'il y a victoire, et puis il n'y avait pas victoire. Ah, est-ce que là, on peut y croire? Enfin, on n'a jamais vraiment été dedans. Presque, on se persuadait qu'on pouvait y croire à un top 8, à une qualif dans les 6, mais en fait c'était déjà beaucoup trop tard.
Et d'ailleurs j'ai eu le sentiment aussi que j'étais parfois plus emballé par le parcours d'autres équipes, d'autres équipes qui nous ont emballé, que ce soit Pau surtout la première partie de saison, Montpellier qui finit très fort, le Stade Français, il y a des équipes comme ça ou Clermont et La Rochelle qui font une remontada à la fin. En fait il y a des équipes comme ça qui m'ont plus donné d'émotions au final, des équipes dont je m'en fous quoi, mais à regarder les matchs, j'étais plus souvent. Je me souviens même du La Rochelle Leinster en Coupe d'Europe où franchement j'avais vraiment bien aimé ce match. Donc il y a des équipes comme ça et avec Toulon, mais j'ai toujours eu. Il n'y a jamais eu exactement l'étincelle, je trouve.
On a la sensation, je ne sais pas si vous la partagez, que la saison s'est aussi terminée un petit peu au mois de mars, février-mars, avec défaite 14 février contre Clermont à domicile. Et puis ce qui s'est passé aussi avec Pierre Mignoni, son retrait forcé pour des raisons de santé. Là on a senti que il y a eu la Coupe d'Europe derrière, mais que ça c'est la double défaite Clermont Stade Français à domicile.
Je pense surtout celle du Stade Français, parce que celle de Clermont, ça vient arrêter l'invincibilité.
Enfin, c'était un non-match total.
Oui, mais ça vient arrêter l'invincibilité à Mayol et tout, et t'as le Stade Français pour te relancer. Et là, derrière, tu te prends le le plus grand nombre de points depuis je sais combien d'années, ouais, voilà. Et celle-là, elle fait très très mal, quoi. Et derrière, c'est trop tard, quoi. Et tu peux plus te relever de ça, sachant que tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre à l'extérieur aussi.
Oui, c'était ça. Voilà. Il y a ce match nul arraché à Lyon, mais qui aurait pu basculer, hein, parce qu'ils ont la pénalité de la gagne dernière minute.
Et moi, justement, je trouve aussi que ce qui est assez parlant, c'est que ce qu'on s'est dit quand même depuis le mois de, allez, à partir de la mi-janvier, où ça commençait à être un peu tendu, parce que Pierre Mignolet a rappelé le match gagné contre Montpellier à domicile, c'était déjà le début des problèmes.
C'était le début de l'affaire, en fait.
Et après, ça a été très compliqué. Et ce qu'on disait systématiquement, c'était que ça paraissait maintenant très compliqué. Mathématiquement, c'était faisable. Mais au fur et à mesure de la saison, on a bien senti aussi que même les joueurs qui essayaient de s'auto-persuader, et ce qui est leur rôle, hein, il faut bien qu'ils y croient tant que c'est mathématiquement possible, à la fin, ils se rendent bien compte aussi que de toute façon, ça s'est joué avant, en fait. Ça s'est pas joué sur ce sprint final. Non. Oui, peut-être qu'en faisant 4 victoires, oui, mais non, c'était avant. Donc en fait, ça a été finalement l'histoire de la saison de se dire peut-être que, et c'est pas passé, hormis la Champions Cup et ce parcours où ça sort un peu de nulle part, faut être honnête.
Oui. Mais ça joue sur la victoire à Glasgow.
Exactement, où Toulon arrive à faire enfin un match, en tout cas plutôt en termes de solidarité présent. Ça a été la période globalement où on les a sentis le plus solidaires entre eux. Hein. Mais à part ça, en fait, on a senti aussi que les discours à la fin qu'on entend là, finalement, sont ceux qu'on
nous donne raison sur
que nous, sur ce qu'on dit,
depuis mi-février,
que de l'extérieur était tenu. Mais allez, on voulait y croire évidemment parce qu'on voulait y croire, mais dans les faits, c'était compliqué. Quoi.
Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignolet. Il a tiré un long bilan la semaine dernière en conférence de presse de cette saison. On vous en a sélectionné un extrait.
C'est pas une saison du tout aboutie et réussie, on va dire même. Je crois que le sport, des fois, c'est assez cruel. C'est une saison assez particulière. On est 9e, donc j'essaye de comprendre pourquoi et parce que je dirige l'équipe. On n'a pas été épargné par le sort quand même, en termes des joueurs blessés. On a eu 3 périodes dans la saison. Début de saison plutôt correct. Et puis après, là, on a forcément manqué énormément de consistance dans pas mal de secteurs. Ensuite, il y a eu la partie sort et c'est un peu abattu sur nous, où on a eu, à un moment donné, 19 blessés. Et là, on a énormément souffert. Ça a été une période des semaines très, très difficiles.
Bon, évidemment, les blessés, ça, c'est ce qui revient aussi beaucoup. On pourra en parler. On a sélectionné quelques stats parce que l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Déjà, en termes de défense et d'attaque, c'est une saison, forcément, quand vous terminez à la 9e place, très compliquée. Toulon, 12e défense du championnat, 9e attaque. Là aussi, deux points que Pierre Mignolet a abordés dans sa longue conférence de presse. Le jeu d'attaque, on va y revenir parce qu'il y a des choses à dire. Mais déjà sur la défense, ce qui était une grande force du RCT ces dernières saisons, qui a complètement lâché là.
L'année dernière, Toulon était la 2e défense du top 14. Et Toulon était 3e, hein, fini 3e.
Oui, 3e.
Voilà. Donc il était à sa place. La 12e défense. Enfin, finalement.
On est dans le.
Les chiffres ne mentent pas.
Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un truc assez intéressant que j'avais remarqué déjà beaucoup plus tôt dans la saison, c'est que la différence de but de Toulon, enfin la différence de points, a toujours été assez faible, voire négative, même quand Toulon était assez bien classé. Et c'était assez symptomatique du fait qu'on arrivait à gagner, mais à l'extérieur, comme on prenait des valises, bien sûr. Et on avait dans le top 10, je crois, quasiment, ou dans le top 8, la moins bonne différence de points. Et ça a été le cas pendant toute la saison. Et après, en plus, quand ça s'est écroulé en termes de résultats, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, globalement, toute la saison,
on a flirté avec la ligne rouge.
Notamment défensivement, où effectivement, c'est quand même une saison où, à l'extérieur, on s'est habitué à prendre 50 points à un moment de la saison. Quoi.
Et c'est tout le paradoxe, parce que ça devait être quand même, et c'est ce que dit Pierre Mignolet en préambule de sa conférence de presse, la saison quand même de la confirmation. L'an dernier, 3e, quart de finale perdu d'un point contre, ou de 2 points contre Toulouse en Coupe d'Europe. On devait faire mieux et on a fait bien pire. C'est quand même le plus triste dans cette histoire.
Cette saison, on fait tâche dans le. Si on regarde le bilan Mignolet, quoi. Parce qu'il était en constante progression depuis son arrivée. D'année en année, on élevait à chaque fois les ambitions du club. Bon, ben là, c'est un sacré. C'est un sacré retour en arrière. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. C'est vrai que. Parce que. Le recrutement n'a pas été sur le papier, du moins sur le papier, c'était pas si cata que ça, quoi. Voilà, on avait quand même une base solide. On aurait pu penser que.
Moi, je trouve notamment que sur les avants, puisque c'est quand même censé être notre point fort, cette saison était censée marquer le retour de Charles Olivon en novembre, je crois qu'il est revenu, ou en octobre même, dans un paquet d'avants où on avait des joueurs déjà ultra dominants, Ludlam qui a vraiment éclos cette saison, Kerry Karaba qui était amené à être très utilisé. Donc on se disait vraiment que sur le paquet d'avant, sur le papier,
oui, on avait
un énorme ouais. paquet d'avant. Je parle même pas des piliers.
Priso, JB Gros
d'un côté,
Sinclair,
Giga de l'autre côté. Ah, voilà, la deuxième ligne, Ribans, vu ce qu'il venait de nous montrer depuis son arrivée à Toulon, on se disait quand même que, oui. au moins sur le paquet d'avant, c'était une énorme force. On est quand même tombé de très haut, faut être honnête. On a les blessures, effectivement, ont joué, et on a aussi dû tirer sur des joueurs qui ont été plutôt méconnaissable. Quand on prend le cas David Ribans, quand on voit le David Ribans de la saison dernière, forcément, et on a parlé déjà de cette fameuse Ribans dépendance, quand on voit ce qu'il a été cette saison, il a été très courageux, hein, il s'est fait opérer du dos, Pierre Mignoni l'a dit.
Mais, oui, parce que ça a été quand même l'un des... Enfin, moi, je le trouve dans l'un des meilleurs, paradoxalement, même si on l'a vu à un niveau bien moins élevé que ce qu'on avait vu les deux précédentes saisons. Mais
les six derniers mois ont été durs pour David Ribans. Ça a été un match, je peux jouer, un match, je peux pas, je suis forfait parce que j'ai mal au dos, donc ça a été très dur.
Mais on voyait la différence, je trouve, quand il était là, et lui et Ludlam, quoi. C'est vraiment les deux seuls.
Voilà, Ludlam, pour le coup, qui lui a été vraiment, vraiment énorme. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, on pouvait pas s'attendre à ce que ça soit aussi cata devant, finalement, hein, parce que ça a vraiment été difficile. Et je parle pas des trois quarts, évidemment.
Est-ce que vous pensez que c'est parce que le recrutement a été un petit peu manqué aussi à l'intersaison? On va passer rapidement, mais on a Mercer, Garcia, Brex, Ferté, il y a quand même des réussites. Capoucou et Albornoz qui sont arrivés en cours de saison.
Les recrutements de saison sont bonnes.
Ouais, hormis Mercer, sinon le reste c'est tout à fait convenable. Hein. Enfin, Brex il fait sa saison. Capoucou sur la fin de la saison, c'est une immense révélation.
Oui.
Voilà, Albornoz, on sent que match après match, il arrive à s'intégrer aussi dans cette.
Je ne les ai pas tous cités, quand même, des échecs. Hein.
Oui, parce que j'allais dire.
Évidemment, Javakia, Narmania.
Les deux Géorgiens, effectivement, Javakia et Narmania qui est déjà.
Mais est-ce que Matteo Garcia, on peut dire que c'est. Ouais, mais voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est des échecs, sachant que ces joueurs là
oui, après,
quasiment jamais
pas,
joué ouais. donc n'ont quasiment rien apporté quoi.
Zach Mercer, il a
beaucoup joué Zach Mercer, donc ça oui, ça c'est un échec.
Je vous propose, on marque une courte pause et on va revenir justement avec les tops et les flops juste ensuite, et je pense qu'on va reparler de Zach Mercer dans quelques instants. Allez, de retour dans Tribune Mayol, justement, on évoquait un petit peu les cas personnels des uns et des autres, préparer chacun un peu nos trois flops, nos trois tops, on peut en avoir trois, mais parce que peut-être pour les trois tops, c'est plus compliqué. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être par le négatif, comme ça on va finir par du positif, les flops, qu'est-ce qui vous paraît être les choses, parce que moi c'est pas forcément des joueurs, mais qui ont le plus déçu.
Moi là qui vient en tête, bon, Zach Mercer évidemment, et...
Par rapport à ce qui est annoncé, en fait, c'est surtout ça.
Oui, par rapport à ce qui est annoncé.
Par rapport à ce qui était attendu, il remplaçait Facundo Issa, qui était déjà très apprécié des supporters du RCT, mais aussi très bon.
Et plus globalement, l'animation offensive, offensive du RCT. Quoi.
Moi, j'ai mis André Amassi, qui quitte la saison. Et pour moi, je vais aller un peu loin dans ma réflexion, mais en préparant l'émission, c'est vraiment ce que je me suis dit. C'est pour moi le plus gros échec de l'ère Bernard Lemaître. Je dirais derrière Patrice Collazo, parce qu'on avait donné beaucoup, beaucoup de cartes à Patrice Collazo, ça n'a pas fonctionné. Et la preuve, c'est que ça fonctionne ailleurs pour lui. Mais André Amassi, on a recruté pour lui. Pierre Mignoni l'a défendu corps et âme. La première saison, ça se passe très mal avec les joueurs. Il y a un vrai conflit, on le sait, en interne, avec des joueurs qui demandent plus de liberté. Il est très, très droit, très carré dans son système. Pierre Mignoni prend sa défense. On sait qu'il y a des joueurs qui sont partis aussi parce qu'ils ne rentraient pas dans ce système-là. Je pense que quand on recrute un Brex ou quand on recrute un Garbizi, c'est aussi parce que c'était des joueurs du système Massi. Et à l'arrivée, trois ans plus tard, c'est quand même un immense aveu d'échec. Et il faut être honnête, il a été mis dehors. Enfin, il a été poussé vers la sortie parce qu'il lui restait quand même un an de contrat. La prolongation d'André Amassi l'an dernier, c'est quand même pareil, un immense point d'interrogation. Parce que déjà, l'an dernier, ce n'était pas du grand régal ce qu'on voyait en termes d'animation offensive. On a prolongé André Amassi pour des raisons que je comprends toujours pas aujourd'hui. Et là, maintenant, on se retrouve à... il a dû probablement prendre son année de contrat et s'arranger avec le club. Mais c'est un énorme échec, je trouve, parce qu'on avait basé aussi notre envie de jeu de trois quarts sur lui et que ça n'a jamais fonctionné.
Il y a quelque chose qui m'a marqué, par exemple, dans le match d'hier soir entre le Stade français et La Rochelle, c'est que le Stade français, dont on vante la puissance, qui est le mot qui revient à chaque fois qu'on parle du Stade français, hier soir a été capable d'envoyer du jeu depuis partout.
Ils ont joué tous les ballons.
Donc en fait, à un moment, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu, ne serait-ce qu'une seule fois dans la saison? On ne l'a pas vu une seule fois. Et
ou sur la fin, quand il n'y avait plus rien à jouer. Voilà,
voilà Castres, s'il vous plaît, merci. Ouais. Mais c'était des. Enfin, voilà.
Non, mais c'était. Voilà.
Et ce que je veux dire, c'est que quand. On ne va pas répéter, mais la qualité de certains joueurs. Moi, encore une fois, les Italiens, puisque tu en as parlé, Brex et Garbisi, ils restent quand même méconnaissables par, quand même,
oui, par rapport, par à, la
rapport à ce qu'on voit en sélection. Les numéros 9, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler quand on voit le niveau qu'ils ont pu avoir cette saison. Et derrière, les trois quarts, c'est pas possible, quoi. Quand on a la qualité, on a Gaël Dréan, que je pense 12 équipes sur 14 du top 14 voudraient nous arracher. Et ça marche pas, quoi. Ouais. Ça marche pas, on les voit solliciter.
Ça n'est que des exploits individuels.
Et à tous les matchs, ouais. À tous les matchs, à chaque fois que j'entends les commentateurs, que ce soit sur le diffuseur de la Champions Cup, que ce soit sur le diffuseur du top 14, à chaque fois que je les entends, c'est oh là là, c'est dommage que Toulon n'aille pas suffisamment sur les ailes, parce qu'à chaque fois qu'ils touchent le ballon, oh, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Ben oui, 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 on sent, mais on l'a senti toute la saison, on leur a donné un ballon, ils marquent un essai à chaque fois, que ce soit Ferté, Dréan ou leur cousin. Donc,
oui, bon, Gaël Dréan, c'est pas un spoil, mais il est dans les tops, hein, ah, 18 essais, bah ouais. C'est la saison de la révélation, on pourra en parler. Mais voilà, en tout cas, Andrea Massi, pour moi, c'est l'aveu d'échec quand même, et aussi de 3 ans quand même, parce que là, on repart pas à zéro, encore une fois. Faut bien savoir, et pour en avoir discuté aussi avec des anciens joueurs qui viennent souvent sur le plateau, mettre en place un système de jeu au rugby, c'est peut-être un peu moins compliqué qu'au foot. On peut pas jouer de 10 000 manières différentes au rugby, donc ils vont pas repartir complètement de zéro. Mais quand même, il y a de nouveau quelque chose à construire, et on a la sensation d'avoir un petit peu perdu 3 ans chez les trois quarts, en tout cas, au vu de ce qu'on voit offensivement. Et moi, dans mon deuxième faute, j'ai visé Sergio Parisse. Parce que bah on va avoir les stats de la touche qui vont s'afficher, et que c'est une saison catastrophique en touche aujourd'hui pour le RCT. Donc
bon, après ça, j'ai pas l'impression que ce soit un problème spécifique à cette année. Il y a régulièrement eu des
oui, c'est vrai.
Des difficultés mais en touche.
C'est quand RCT, même voilà, 12e au classement des touches offensives, donc à peine 70% des touches gagnées.
77%. Quand on vante la conquête comme étant la base de ce club.
Et 20%.
Parce qu'on n'est voilà, pas l'UBB à jouer le feu, ouais, avec nos trois quarts, techniquement. Ok, on est censé jouer sur une conquête solide. En mêlée, on a complètement explosé. Et là, pour le coup, je pense que c'est aussi l'un des changements énormes par rapport à la saison dernière. En touche, les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. 12e touche, derrière quelle équipe on est? C'est-à-dire que derrière nous, il n'y a que Perpignan et Montauban.
Alors là, tu me prends au dépourvu, mais je vais chercher
chercher. Comment ça, tu connais pas toutes les stats du top 14?
Montauban, sans doute. Après peut-être pas Perpignan, mais ouais.
Non mais enfin voilà, c'est quand même
non mais si vous n'avez pas le jeu 3 quarts et que vous n'avez pas la touche, quand même ça devient compliqué pour marquer des essais,
tu peux pas faire grand chose.
Mais voilà, donc moi c'était mes deux flops, et après j'ai mis les blessures, c'est un peu facile, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un énorme point rouge ou point noir de cette saison, c'est que
point rouge et noir,
rouge et noir, très bien. Factuellement voilà, on a eu trop de blessés, et trop de blessés de longue durée, enfin je vais pas tous les citer, mais les Charles Olivon, les Marius Daumont,
après c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, malheureusement on le sait, les saisons de blessures comme ça, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça s'enchaîne, tu dois plus tirer sur certains joueurs qui du coup eux-mêmes ont plus de risques de se blesser, je pense à Lodlam par exemple, à des joueurs qui ont beaucoup joué comme ça et qui finissent par être blessés, à Marius Daumont peut-être aussi, qui a été quand même pas mal utilisé, donc c'est aussi malheureusement un cercle vicieux où quand tu as une saison où il y a beaucoup de blessures. Après c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que La Rochelle, ils ont eu 20 blessés pendant la saison, et au moins ils étaient au rendez-vous des quarts de finale.
C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une fausse excuse en fait, les blessures, parce que tout le monde, en fait chaque club est touché par des blessures à un moment donné, et puis peut-être qu'aussi à un moment, quand il y a autant de blessures, est-ce que peut-être aussi il faudrait pas remettre en cause la préparation physique et
la sensation que c'est ce qui a été fait. Alors
Bernie, il a balayé staff, un peu, quoi. Du après, revers de la main en disant non. Après il y a aussi la vérité, ça on peut pas l'enlever, moi je suis désolé, mais quand tu jouais deux compétitions,
oui,
c'était pas Toulouse ou
Toulouse, oui, parce que
Bordeaux non aussi, on le voit quand même, c'est pas possible en fait, ils sont allés en demi-finale, ils sont allés trop loin pour tirer autant sur les joueurs, sachant que pour aller en demi-finale ils ont dû aussi gagner des matchs importants en poule déjà, donc se rajouter des matchs importants à domicile. Je me souviens que l'enchaînement de deux matchs en janvier, il est suivi de Montpellier derrière, où tu dois gagner chez toi. Donc c'était et après il y avait un déplacement à Pau, donc il y avait quatre matchs déjà où tu devais aligner ta meilleure équipe. Tu peux pas aligner tout. Enfin il y a des joueurs, on parlait de Mercer, etc. Des joueurs qui ont été sursollicités aussi, et donc c'est pour ça aussi. Mais en même temps, nous les supporters, on veut qu'ils aillent leur meilleure équipe dans les deux compétitions. Donc
l'histoire récente des modernes du RCT est très liée avec cette Coupe d'Europe, et c'est dur de se dire qu'il faut la bazarder entre guillemets.
Non mais il faut aussi en assumer les conséquences parfois. Et peut-être que la conséquence d'avoir fait une demi-finale de Champions Cup, on la voit en top 14, c'est finir 9e.
Cette nouvelle formule de Champions Cup, il y a beaucoup moins de matchs.
Il y en a plus.
De Coupe d'Europe.
Il y a un 8e de finale en plus qu'il n'y avait pas avant. Puisqu'avant, il y avait des poules, c'était des poules de 4.
Des poules de 4, donc tu avais match aller-retour.
Oui, c'est vrai qu'il
donc avait... ça faisait 6 matchs en poule.
Ça faisait 6 matchs en poule et par contre, tu as cédé directement voilà. au quart.
Et là, c'est quoi? Là, c'est que 4 matchs de poule.
C'est 4 matchs de voilà. poule et t'as un 8ème.
Voilà, c'est... ouais, donc. Mais c'est quand même. T'as quand même moins de matchs.
La différence, c'est que les matchs de poule sont plus relevés parce qu'à l'époque. C'était un système de poule un peu comme on a bah, classique
avec des chapeaux
avec des chapeaux et bon quand tu prenais Trévise là pour le coup tu pouvais mettre ton équipe bis mais avec tout le respect qu'on a pour Trévise
bon là
mais...
si on prend les matchs de Champions Cup il y a eu
ce qui est dur c'est ça
il y a eu que entre guillemets 6 matchs
oui
en plus de Coupe d'Europe alors qu'avant à l'époque t'avais 6 matchs rien que pour les poules
mais c'est des vrais matchs de haut niveau dans le sens
ouais, où c'est des enchaînements de 2 matchs aussi c'est des enchaînements de 2 matchs c'est à dire que 6 matchs c'est 2 blocs à chaque fois de 2 week-ends et ça il faut le mettre entre des week-ends de top 14 qui arrivent juste avant et juste après donc ça dépend l'adversaire que tu joues mais
rapidement parce que le temps file sur les tops bon moi je disais Gaël Dréhan 18 matchs c'est la saison de la révélation
c'est la saison dernière la saison de la révélation
oui la saison de la confirmation pardon la saison de la confirmation avec cette première cape en équipe de France. Bon, si on veut être, on veut pas être négatif tout le temps, mais presque là, le plafond de verre il commence à être atteint pour lui. Est-ce que soit le RCT commence à jouer des phases finales et des matchs très importants, soit ça va être aussi compliqué pour lui.
Il est dépendant du projet club aussi, quoi. C'est-à-dire que là, la saison prochaine, de toute façon, le RCT va être ultra attendu en top 14. Il y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc c'est là aussi peut-être que qui pourra exploser, mais on pourra pas faire plus, quoi. Donc effectivement, il va falloir aller chercher des titres, hein, tout simplement, parce qu'un joueur comme ça.
C'est voilà. Là, on sait qu'il a été donc son opération s'est bien passée. C'est ce que nous a dit Pierre Mignoni la semaine passée. Il reviendra qu'en novembre. Il y a une année de Coupe du Monde, donc on sait que tout le monde va avoir en tête 2027 et cette Coupe du Monde en Australie. On aura l'occasion d'en reparler rapidement. Là aussi, l'un des grands chantiers, l'un des grands mystères de cette prochaine saison qui arrive, Franck Azéma, qui, selon le président, vient pour être manager général, selon Pierre Mignoni,
entraîneur en chef.
Selon Pierre Mignoni, plutôt entraîneur des trois quarts. Je l'ai senti, Naël, t'étais là aussi à la conférence de presse, c'était assez flou cette réorganisation. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'une clarté pure. Je sais pas comment toi tu vois les choses.
Je pense qu'ils sont en train de la. Ouais. À mon avis, ils la verront
ils sont en train de le modeler même eux.
Lui insiste sur le fait que c'est
non,
pas.
Non, mais parce que quand le club communique, parce que le club a envoyé un communiqué officiel,
ouais, tout à fait.
Entraîneur en chef. D'accord. Donc entraîneur en chef, ça veut pas dire entraîneur des trois quarts.
Non, ça veut dire entraîneur
en chef. Ça veut dire qu'il entraîne tout et que la seule personne au-dessus de lui, c'est Pierre Mignoni.
Voilà, ça veut dire entraîneur en chef.
Il fera la compo. Par exemple.
La Pierre Mignoni nous dit, Franck va s'occuper du jeu d'arrière.
D'attaque.
Et moi, je vais m'occuper de devant. Mais comment ça, il va s'occuper du jeu des avants.
En sachant que Pierre nous dit aussi, pour ça qu'André Amassi est parti, pour pas empiler les profils.
Exactement. Il y a une personne, enfin il y a des gens qui sont là pour ça, pour le jeu d'avant. Et Bernard Lemaitre d'un côté, il dit mais il va prendre de la hauteur, il va plus gérer plus globalement le club.
Les jeunes.
Ouais. Enfin c'est bizarre, c'est flou, mais je pense que comme tu le dis, même eux, ils savent pas trop encore.
Je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent leur rythme,
leurs ajustements.
À un moment, ce sera quand ils seront ici ensemble que
l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ego, puisqu'ils se connaissent bien et qu'ils s'apprécient. En tout cas, non, mais je veux dire, il n'y a pas d'ego. Je pense à Bayonne où ça s'est mal passé aussi quand on a voulu mettre deux entraîneurs en disant non, mais là, au-dessus de l'autre, on peut imaginer que là, ça se passera mieux. En tout cas, on peut l'espérer. Mais c'est vrai que le contour du staff et des rôles de chacun. On nous l'a promis.
Je crois qu'il est encore à définir parce que là, Pierre nous sort quand même que peut-être que Sarzel va remplir pour une saison et que finalement il va juste être formé en tant qu'entraîneur alors qu'on l'avait annoncé, enfin en tout cas des médias avaient annoncé qu'il serait dans le
coach
staff.
Coach des trois quarts.
Voilà. Donc bon, je pense que c'est encore pareil. Est-ce que Mika Ivaldi sera juste un consultant? A priori, ça devrait être ça, mais il va y avoir encore, à mon avis, des choses à remodeler jusqu'en juillet, quoi.
Je vous propose un coup d'œil sur les transferts, j'allais dire le mercato, mais je sais que certains rugbymen n'aiment pas ce mot, sur les arrivées côté RCT. Qu'est-ce que vous en pensez? Un recrutement de 6 joueurs avec notamment Rabah Slimani, Cancorier qui fait une grosse saison à La Rochelle, et puis ensuite 4 trois quarts. Évidemment les stars du recrutement, Gaël Ficou, Hugh Jones.
C'est bien parce qu'on avait besoin de centre.
Oui.
Donc je pense que c'est quand même une bonne chose.
Là, c'est deux CV quand même très conséquents.
Oui. Cancorier, j'ai quand même hâte de voir aussi ce que ça peut donner. Mais après, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'autant recruter que ça. Moi, je pense qu'effectivement, le poste où il fallait, c'était au centre. Donc c'est très bien qu'on ait récupéré deux joueurs, en plus, qui sont censés être deux joueurs de très très grande qualité, qui vont apporter beaucoup d'expérience. Après, sur le reste des postes, de toute façon, encore une fois, sur les avants, moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs où j'ai des doutes, quoi. Donc il faut j'aimerais juste les voir ensemble.
Il y a eu peu de départs. Devant, il n'y a que Brennan qui s'en va. Alors après, il y a
Danny Prisot qui est blessé pendant très longtemps.
Danny Prisot qui est blessé. Je pense aussi du coup à Lel, hein, puisque Gaël Drian ne sera pas là avant novembre. Il ne va pas faire de prépa.
À Lel, on a un petit souci par contre. Là. Enfin, à l'instant.
Aujourd'hui, c'est Mathis Ferté. C'est.
Narogo, je ne sais pas du tout qui est ce joueur.
Narogo, c'est la grande interrogation. 24 ans, il n'a jamais joué au rugby à 15. Donc il y a aussi quand même. Il n'arrive pas à 18 ans, quoi. Il arrive à 24 ans. Donc il va falloir qu'il s'adapte très très vite. Il n'y a que Twikovu aujourd'hui et Mathis Ferté qui peuvent jouer à l'aile. Et
Ryan Rebadge.
Et Ryan Rebadge aussi, mais pourquoi pas. voilà.
Qui n'est plus trop là depuis un moment. Quoi.
Non, bah, qui est avec le 7, mais on sait aussi que c'est une manière aussi de récupérer un gif sur chaque feuille de match où il est au 7. Donc voilà, quel est Taona qui a une vraie place à l'ouverture à aller chercher derrière Albornoz parce que les cartes sont redistribuées en 10.
Ouais, mais vu le nombre de. Il y a quand même Garcia qui reste ici. Oui, mais Garbizi.
Coup de Garbizi, quoi.
Ouais,
qu'est-ce qu'il va faire, Garbizi?
Garbizi qui était approché par Perpignan, ça s'est pas fait. On n'a pas trop su pourquoi, mais il y a 4 numéros 10 aujourd'hui dans, le, dans l'effectif du RCT.
C'est pour ça, je pense qu'il y en a quand même un qui
et
va
je pense
peut-être
que,
être.
Bon, bref, voilà, je ne vais pas prononcer son nom.
Quel est Taona?
Quel est Taona? Voilà, je pense qu'il sera quatrième de cette, de cette rotation.
Je pense que c'est plus sur le long terme, si j'ai bien compris, les frères Quel est Taona.
Oui, moi je vous trouve dur avec Quel est Taona. Je pense qu'à 20 ans, il peut déjà prendre la place à Garcia et à Garbizi s'il fait 2-3
V. Bah, aujourd'hui, on a 0 match de top 14. Hein. Ouais, voilà, moi je le connais pas du tout.
Et très peu en Pro D2 aussi.
Mathis Ferté aussi, il est titulaire à l'aile, indiscutable.
Non, Mathis Ferté, il avait déjà joué en top 14 avec. Ah si, si, il avait déjà joué en top 14 avec Brive et il avait ensuite joué en Pro D2 avec Brive.
Mais surtout, il avait beaucoup plus de références en Pro D2, Mathis Ferté. Que ce que a Quel est Taona par exemple.
Bon, bah, on, la suite au prochain épisode en l'occurrence.
Non, mais moi, on a deux voir aussi. Quoi,
oui,
c'est
bien,
joueurs
bien sûr,
qu'on
bien
a
sûr.
Envie de voir.
Oui, disons que je trouve que la concurrence en 10 derrière Albornoz est quand même très très ouverte au vu des prestations de.
Ah oui,
de
c'est léger. Ouais.
Rapidement, les objectifs de la saison prochaine, donc on l'a rappelé, hein, Challenge Cup pour le RCT, évidemment championnat, de plus en plus relevé ce championnat. On l'a encore vu hier soir et vendredi avec ces deux beaux barrages. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison très rapidement?
Bah, de toute façon, Pierre Mignoni, quand je lui ai posé la question, m'a dit qu'il fallait attendre de voir, mais qu'en tous les cas, Toulon était obligé de bien figurer en Challenge Cup. Donc,
ouais,
dans tous les cas, techniquement, ça veut dire qu'ils vont la jouer.
Donc, la gagner.
Donc, il faut la gagner. Je pense que ça, tu peux pas viser.
Non, mais c'est ça ou rien. Non. Ben non. Tu viens de sortir une demi de Champions Cup. Tu peux pas dire à minima demi de Challenge Cup. C'est pas possible.
En sachant que tu n'as envoyé que des jeunes, il faut pas non plus s'imaginer qu'on va mettre ça.
En tout cas, la priorité, je pense que
c'est final au moins.
Tout le monde espère, c'est surtout le top 14. Non, mais c'est surtout le top 14.
Final au moins de Challenge Cup.
J'ai pas de bêtises.
À Lyon, tout à fait.
Non, mais c'est surtout le top 14.
Au moins dans les 6. Au moins.
À finale de top 14.
Non, mais il faut viser. Bien sûr, il faut viser très haut. Enfin, à un moment, sur une saison comme ça, il faut aller viser.
Ouais, mais bon, tu vas voir Bordeaux qui a pas fait de top 6 cette année.
Oui, mais regardez le changement de top 6 de cette année montre aussi que des équipes qui jouaient peut-être plus la challenge peuvent sortir. Alors, je dis pas qu'ils vont finir en finale. De toute façon, ça dépend aussi du parcours que tu vas faire. Tu peux y aller en finale s'il y a eu Toulouse-Bordeaux en demi de l'autre côté. Et que, donc voilà. Mais en tout cas, viser haut. Bien sûr qu'il faut viser haut sur la saison régulière. Je pense qu'aller chercher une deuxième place, c'est pas impossible parce que tous ceux qui vont jouer la Champions Cup vont lâcher des points dans la saison. Donc à un moment il faudra aussi se dire que peut-être c'est la saison pour aller chercher une demi-directe quoi. Donc voilà, il faut
objectif élevé.
Et bien sûr, mais je pense que vous croyez que tous ceux qui viennent à Toulon, ils viennent pour quoi? Et bien sûr qu'ils viennent pour aller chercher une finale
et pour jouer la Champions Cup.
Ouais, mais bon,
et pour jouer la Champions Cup, donc ils l'ont pas, ils vont
et ceux qui viennent à Bordeaux et à Toulouse et à La Rochelle, ils viennent pour jouer.
Non, mais je pense qu'ils ont tous, enfin là je pense que la saison prochaine sans la Champions, ils vont tous avoir les dents longues en top 14.
Ouais. Ça me paraît c'est clairement l'avantage et on va conclure là-dessus, mais je te rejoins, Montpellier n'a pas joué la Champions Cup et a fini deuxième, le Stade Français également. Enfin voilà, il y a beaucoup d'équipes du top 6.
Et Montpellier a gagné la challenge.
Et Montpellier a gagné la challenge, je veux dire.
Et ils font demi direct.
Ils sont à 14 victoires si on enlève celle contre Toulouse d'affilée. Hein. C'est ma stat.
Non mais
14 victoires d'affilée. C'est énorme.
On voit
si on enlève.
Si on enlève Toulouse. Oui. 14 victoires sur les 15 derniers matchs, si tu veux le faire.
Oui. Bon, mais voilà.
Ce que
c'est
je veux dire,
c'est... Et c'est 22 sur les 25 derniers matchs.
On va conclure en disant que ça peut être un vrai avantage de jouer cette Challenge Cup et de faire opposer les cadres. Messieurs, merci beaucoup. Pas facile de faire ce bilan. Bah, on aurait préféré faire un bilan après la finale.
On peut y passer 3 heures à faire le bilan de toute façon. Hein.
On aurait pu vous sortir une flopée de stats encore, mais bon, voilà, vous savez que ça reste une saison décevante. On le conclura comme ça. Messieurs, merci beaucoup. C'est un bel été.
Merci Nance, bel été à toi aussi.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve à la rentrée.
À la rentrée ouais.
Et oui.
C'est sûr. Premier c'est week-end de septembre, première journée top 14.
On sera là.
Tribune Mayol sera là.
Une plus belle saison pour le RCT, on leur souhaite en tout cas.